Je rappelle qu'on a parlé il y a deux dimanches de l'importance des dispositions du cœur, les dispositions intérieures. C'était fondamental. D'ailleurs, ce que nous avons entendu tout à l'heure dans une prière, oui, c'est vrai, Dieu regarde au cœur et pas aux apparences. Parce que les apparences sont trompeuses. Nous pensons que ça veut dire une chose, mais nous nous trompons souvent sur ce que nous voyons. La semaine dernière, nous avons médité ensemble sur cette expression « les uns les autres » dans l'Écriture. Et je vous propose de terminer un petit peu cette réflexion, quoique je ne l'avais pas prévu de faire comme une suite, sur l'unité de l'Église, ce que la Bible enseigne sur l'unité de l'Église. Et je vous fais une remarque, je ne sais pas si vous vous en rappellerez, mais quand nous avons eu le camp famille, le thème, c'était la vie de l'esprit, et notamment quand on a fait 1 Corinthiens chapitre 12, j'avais donné comme titre « L'unité de l'esprit ». Et nous avons vu ces choses ensemble. Et même les deux fois où j'étais venu, avant d'être pasteur de cette assemblée, dans mes messages, il y a eu presque à chaque fois des allusions ou même des affirmations sur l'amour dans l'Église et l'unité. Et plus les mois passent, plus je me rends compte que c'est un besoin parmi nous. Et qu'en réalité, même sans trop le savoir, certainement que l'Esprit de Dieu veut nous conduire dans des liens et une unité plus profonde dans notre assemblée. Alors on va commencer par un épisode un peu contraire. Vous voulez bien lire avec moi dans 2 Samuel, chapitre 2. Versets 12 à 17. 2 Samuel, chapitre 2, versets 12 à 17. Bienvenue à ceux que je ne connais pas. J'ai vu plusieurs nouveaux visages. C'est difficile pour moi de encore bien connaître ceux qui sont habitués de pas, mais je commence quand même à voir la différence. Que Dieu vous bénisse. 2 Samuel, chapitre 2, verset 12. Abner, fils de Ner, et les gens d'Ish-Bochet, fils de Saül, sortirent de Mahanaïm pour marcher sur Gabaon. Joab, fils de Tseruja, et les gens de David se mirent aussi en marche. Ils se rencontrèrent près de l'étang de Gabaon et ils s'arrêtèrent les uns en deçà de l'étang et les autres au-delà. Abner, chef de l'armée d'Israël, dit à Joab, chef de l'armée de Juda, que ces jeunes gens se lèvent et qu'ils se battent devant nous. Il propose donc un duel. Joab répondit qu'ils se lèvent. Ils se levèrent et s'avancèrent en nombre égal, 12 pour Benjamin et pour Ish-Bochet, fils de Saül, et 12 des gens de David. 12, c'est le chiffre du peuple de Dieu. C'est comme si ce duel des 2 x 12 représentait les deux peuples de Dieu qui s'affrontaient, Judas et Israël. Chacun saisissant son adversaire par la tête, lui enfonça son épée dans le flanc et ils tombèrent tous ensemble. Et l'on donna à ce lieu qui est près de Gabaon le nom de Elkat Hatsurim, c'est-à-dire champ des rocs ou des épées, parce que paraît-il qu'en hébreu, roc veut dire aussi tranchant de l'épée. Il y eut en ce jour un combat très rude dans lequel Abner et les hommes d'Israël furent battus par les gens de David. Amen. Alors on ne commence pas par l'unité ou la paix, mais plutôt par l'inverse, la guerre. Et pas n'importe laquelle, la guerre civile, la guerre intérieure, la guerre entre frères. Ce n'est pas le plan de Dieu. Mais l'Ancien Testament nous montre bien des épisodes de division, d'hostilité et même de guerre dans le peuple de Dieu, entre gens du peuple de Dieu. un duel où personne ne gagne. Tout le monde meurt. C'est exceptionnel. On a peur de le dire, mais si les 24 étaient en train de mourir et auraient été tous guéris, on aurait parlé de miracle. Mais là, c'est presque miraculeux, tant ça semble impossible que dans un duel de 2 fois 12, les 24, au même moment, s'entretuent et tombent tous morts. C'est curieux. Tout le monde a perdu, personne n'a gagné. On ne gagnera jamais à s'affronter les uns les autres. On perdra toujours. Et Dieu ne sera jamais glorifié par une victoire quand des frères s'affrontent ensemble. Au contraire, ils sont tombés, 24 innocents morts pour rien. Et combien de chrétiens sont spirituellement morts ou blessés pour rien dans des affrontements que Dieu n'a jamais voulu. Abner n'a pas compris. Il était à l'initiative de ce duel. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pour voir un peu ce que ça allait donner. Au lieu de s'affronter tous, pourquoi pas faire un duel, peut-être pour voir ce que cela montrerait. Mais il n'a pas vu. Parce qu'Abner, après cela, Abner et les hommes d'Israël furent battus. Il a quand même été jusqu'au bout de sa mauvaise idée. Et il en a payé les frais. Il n'a pas compris. C'était pourtant une évidence. Et je le comprends parce que pendant des années, quand je lisais ce chapitre, je ne comprenais pas. Je disais, mais pourquoi un duel? Pourquoi les 24 sont morts? Mais depuis quelques années, cela m'est apparu comme une évidence. Dieu montrait par là qu'il ne fallait pas se battre entre peuples, que ce serait vain, inutile, et que c'était plus pour perdre que pour gagner, plus pour mourir que pour vivre. Et Abner, en voyant ce duel fratricide et meurtrier, où personne n'a gagné, il aurait dû se dire, là le Seigneur me montre quelque chose. Le Seigneur m'arrête, le Seigneur me montre que le combat dans lequel je veux m'engager ne fera que du mal, mais pas du bien. Mais il n'a pas vu. Et c'est d'ailleurs curieux, bien longtemps plus tard, il dira de toute façon qu'il savait que David avait été choisi par Dieu en plus. C'est curieux. Des fois, on sent dans notre cœur qu'il y a un plan de Dieu, mais la chair ne veut pas. Et on continue quand même dans une mauvaise direction. Mais quelle folie, c'est Dieu qui triomphe toujours. L'homme sera vaincu toujours par Dieu, l'homme, la chair. Amen. Quelle leçon. Jésus a dit, tout royaume divisé contre lui-même ne peut pas subsister. Amen. Alors, prenons leçon de ce passage imagé, très imagé pour nous de l'Ancien Testament. Si nous nous défions, comme c'est un duel, on peut dire si nous nous défions les uns les autres, nous ne ferons que du mal les uns aux autres. Que Dieu nous garde de combats inutiles et fraternels, un combat fraternel, mais plutôt qu'il nous conduise dans la bonne volonté de Dieu. Amen. Voilà pour ce premier contre-exemple. Maintenant, mon message va s'arrêter plus longuement sur la place de l'unité de l'Église dans l'enseignement de Paul. Notamment, nous allons voir que toutes, je dis bien, toutes les épîtres que Paul a adressées à des églises comportent à chaque fois des pans importants d'enseignement qui traitent de l'unité de l'Église. Et ça, c'est plus ces dernières années que je l'ai découvert moi-même. Depuis toujours, dans mon ministère, je ne savais pas pourquoi, plusieurs fois par an, le Seigneur me mettait à cœur, dans les différentes assemblées où je passais, de parler sur l'unité de l'Église. Et parfois, je me disais, mais tu en as déjà parlé. Et c'est que depuis quelques années où je comprends pourquoi cette insistance, parce que cette insistance ne m'était pas subjective et personnelle, elle se trouve dans l'Écriture. Alors, on ne verra que la plume de l'apôtre Paul parce que ce serait trop long, mais les autres apôtres aussi en parlent. Mais comme c'est lui qui a écrit le plus d'épîtres, cette répétition sera plus manifeste. Alors, ce matin, supportez que ce soit un message plus d'enseignement que forcément d'exhortation, quoique, que le Seigneur puisse nous exhorter par l'enseignement de sa parole. Amen. Alors, l'épître aux Romains, on va commencer, on va faire les épîtres, les unes après les autres. J'ai sélectionné des textes et on va essayer de justement s'en tenir à quelques brides pour ne pas être trop long. Alors, allons à l'épître aux Romains. Donc, l'épître aux Romains, si vous voulez, vous pouvez feuilleter en même temps que moi, rapidement, très rapidement, jusqu'au chapitre 3. Alors, l'épître aux Romains avait un problème, enfin, c'est pas un problème, mais c'est nous qui faisons des problèmes là où il n'y en a pas souvent. Hein. L'Église aux Romains était composée pour bonne part d'une partie juive et d'une partie non juive. Et ça a créé des difficultés pour que les juifs et les non juifs qui étaient chrétiens soient unis dans une même Église. Alors, comment s'y prend Paul ? Eh bien, il commence par dire, du chapitre 1 à 3, juifs ou non-juifs, c'est pareil, on est tous des pécheurs. On est tous perdus. Des chapitres 3 au chapitre 7-8, il va dire, juifs ou non-juifs, c'est pareil, on est tous justifiés, sanctifiés, glorifiés. Alléluia. C'est dans cet épître qu'il est écrit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais on le cite comme ça. Mais le tous, c'est à la fin du chapitre 3. Le tous, c'est dans sa démonstration, son argumentation, les juifs et les non-juifs. Car nous avons tous péché, mais nous sommes tous gratuitement justifiés par Jésus-Christ. Alléluia. Et nous avons le don de la vie éternelle. Alors Paul explique aux Romains, il dit mais que vous soyez juifs ou non juifs, vous êtes tous pécheurs condamnés, mais vous êtes tous pécheurs sauvés. Alléluia, grâce à Jésus-Christ. Après, il leur explique que maintenant c'est par l'Esprit et non plus par la loi que l'on soit juif ou non juif, que l'on sera changé par le ministère du Saint-Esprit. Chapitre 9 à 11 traite de la destinée d'Israël et des nations, des chapitres très intéressants. Mais ce qui est très fort dans ces chapitres 9 à 11, c'est que Paul dit en gros que les juifs et les non-juifs sont devenus un même arbre, le même olivier, tronc, branche. Et c'est très fort. Dans ces chapitres-là, Paul explique, mais juifs et non-juifs ont été réunis et ils constituent un même olivier maintenant. Ah, il faut que les non-juifs respectent les juifs et que les juifs acceptent les non-juifs. Nous sommes tous un en Jésus-Christ. Alléluia. C'est beau, chapitre 9 à 11. Et puis, alors, après, à partir du chapitre 12, eh bien, c'est la partie pratique, concrète. Voilà. Hein, j'ai oublié même de dire qu'en Romains 8, Paul donne la même espérance aux juifs et aux non-juifs, celle que la création soit délivrée de la vanité. Bon, alors dans la partie pratique, ben là, il y va plus concrètement. Et c'est ça qu'on va lire. Romains chapitre 14, verset 1er. Mais c'est bien aussi de... Romains 14 ne peut pas être vraiment bien compris si on ne connaît pas l'épître aux Romains tel que j'ai essayé de vous la résumer. Le chapitre 14 prend toute sa couleur quand on connaît toute l'épître. Alors j'en profite. Ça, je fais mon travail, mon devoir de pasteur. Frères et sœurs, lisez toute l'Écriture. Si vous avez un verset dans l'Épître aux Romains, c'est bien, mais lisez Romains du premier verset jusqu'au dernier verset du chapitre 16. Lisez pas au hasard, un petit peu, de temps en temps, tous les jours. Lisez de A à Z un livre. Alors, je ne dis pas que le jour même vous lirez tout le livre, mais le lendemain, reprenez du chapitre où vous êtes arrêté la veille. Lisez toute la parole de Dieu. Parce qu'il y a des choses que vous ne comprendrez pas si vous ne la connaissez pas. Chapitre 14, versets 1 à 5. Accueillez celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout. Ben, ça, c'était les païens, ils mangeaient de tout. Tel autre, qui est faible, ne mange que des légumes, parce que certains chrétiens restaient encore gênés dans leur conscience de faire certaines choses qui n'étaient pourtant pas interdites en Jésus-Christ. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas. Donc, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Amen. Donc le païen ne doit pas mépriser le juif et le juif ne doit pas juger le païen. S'il se tient, qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui, pardon. S'il se tient debout, s'il tombe, cela regarde son maître, mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait tous le même avis. Ah non, c'est pas ça qui est écrit. Hein. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Amen. Et chacun aura une conviction différente sur le sujet. Nous, nous pensons que pour être unis, il faut qu'on comprenne tous de la même façon tout. Qu'on ait tous les mêmes opinions. Paul ose dire, mais que chacun le fasse sincèrement, qu'il soit convaincu dans ce qu'il fait. Ce qui compte, c'est que vous fassiez pour le Seigneur et sincèrement. Et il faut qu'on apprenne à plus soit se juger, soit se mépriser. On peut peut-être avoir, en tant que chrétien, une certaine marge de liberté pour avoir des opinions, même dans la foi, qui soient différentes. Sans que ça s'attaque à l'unité. Parce que, bien aimé, si nous attendons que nous tous ici, on croit tous exactement la même chose dans tout ce qui est écrit dans la Bible, on ne sera jamais unis. Mais la parole de Dieu va même nous diviser. Alors là, je me dis, il y a un problème. Que la parole de Dieu nous divise. Nous devons apprendre à nous respecter les uns les autres. Et l'Écriture dit ici, ne discutez pas les opinions. J'ai envie de dire, ne disputez pas les opinions. c'est dommage parfois, ça peut être bien de discuter, de partager des opinions différentes. Moi, je suis plutôt pour cela. Mais je crois qu'il y a des moments où si partager, ça va faire plus de mal que de bien, alors il y a des moments où, en attendant que peut-être ce soit possible de plus partager, ben, il vaut mieux avoir la sagesse d'avoir ce conseil. Ne discutez pas les opinions. Amen. Et voilà, pour ne pas ou se juger ou se mépriser. Et puis Paul dit, mais Dieu l'a accueilli tout à l'heure à la Sainte Cène. Dieu nous a tous accueillis à sa table. Amen. Si Dieu nous accueille, accueillons-nous les uns les autres, comme Christ nous a accueillis. C'est d'ailleurs à la fin du chapitre 14 que ce verset est cité. On continue dans les versets choisis, versets 10 à 12, s'il vous plaît. Verset 10. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. » Amen. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Amen. Vous savez, quand on est dans la position du juge, on oublie que c'est Dieu le juge. Et Paul le rappelle, il dit, « Mais attendez, attendez. » Vous vous jugez les uns les autres. Mais non, c'est vous, chacun en particulier, qui allez être jugé par Dieu. Vous ne trouvez pas qu'avant de balayer devant la porte des autres, il faudrait balayer devant la nôtre. Avant de juger les autres, il faudrait laisser la parole de Dieu nous juger, pour que quand Dieu nous jugera, nous puissions recevoir la louange qui nous sera due. Amen. Nous avons besoin, et ça c'est vicieux, mais je vous assure, c'est un jour un prédicateur qui disait, quand on vise quelqu'un, on est pointé en même temps. Vous savez, c'est très vicieux, mais c'est une tactique inconsciente de la chair, qui nous permet, tant qu'on s'occupe des autres, que nous, pendant ce temps-là, on est tranquille. On n'a pas de problème. Non. Rassurons-nous, comme le dit l'apôtre Paul, mais il se tiendra debout, parce que Dieu est son Dieu comme il est le tien. Alléluia. Vous savez, même si parfois dans l'assemblée, des frères, des sœurs peuvent avoir des opinions qui montrent une certaine fragilité, Paul ose dire de ceux qui mangeaient que des légumes qu'ils étaient faibles. Ben oui, des fois, voilà, je vais peut-être vous heurter, permettez-moi cette illustration. Un musulman, dans sa religion, depuis qu'il est enfant, ne mange pas de porc. S'il se convertit au Seigneur, je ne vais pas l'obliger du jour au lendemain à manger du porc. Il peut être vraiment au Seigneur, mais avoir besoin d'un certain temps pour passer cette barrière culturelle. Et je ne vais pas, s'il est vraiment converti au Seigneur, il est sauvé, il est accueilli. Alléluia. Et je ne vais pas l'inviter chez moi pour faire un test et lui servir ce que je pense qu'il devrait manger parce qu'il est converti. Ah, il est converti, oui, mais il va avancer. Amen. Alors, ça, c'est un exemple, mais tellement d'autres sujets sur lesquels donnons le temps à chacun d'avancer, de comprendre et d'arriver, comme Paul le dit, à des convictions, plutôt que trop rapidement exiger un mimétisme de la part des uns et des autres. Alors, j'avais prévu le verset 19 aussi, on va lire le verset 19, vous voulez bien, chapitre 14. « Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. » Au lieu de dire « tu dois manger ça, tu ne dois pas manger ça », réfléchissons à la paix dans l'Église. Chapitre 15, verset 1er. Nous qui sommes forts, ah, on aime bien être forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas chercher ce qui nous plaît. On n'est pas fort pour triompher des autres. On est fort pour aider les autres. Hein? Nous, force va avec domination et violence, mais pas dans l'Écriture. Dieu est tout-puissant, Dieu est fort, mais il utilise sa puissance dans son amour et pour nous, notre bien. S'il y en est un qui pouvait nous écraser, c'est lui. Mais il a préféré envoyer son Fils pour sauver ceux qui étaient perdus. Alléluia. Donc le fort ne doit pas dire « j'ai raison, je sais que » et s'imposer. Le fort doit dire « ah ben je comprends ton point de vue, que Dieu te bénisse, prions ensemble. » Alléluia. Verset 2, « Que chacun de nous plaise au prochain. » On veut toujours plaire à Dieu, c'est bien de plaire à Dieu, mais il faut essayer de plaire à l'Église aussi. « Que chacun de nous plaise au prochain, pour ce qui est bien en vue de l'édification. Car Christ n'est pas venu chercher ce qui lui plaisait. Mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. » Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ. Afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors voilà, l'unité va favoriser la prière de glorification commune. Amen. Tout à l'heure, on priait ensemble. Parfois, dans notre assemblée, on peut avoir des moments où c'est un peu plus difficile de prier ensemble. Alors, souvent, nous, en tant que pentecôtistes, on dit qu'il faut que l'onction vienne, il faut que l'esprit vienne. C'est pas faux. Mais moi, je crois vraiment que la qualité de la louange dépend de la qualité de l'unité de l'Église. Une Église qui est divisée, une Église qui se critique, aura beaucoup de mal à glorifier et louer Dieu d'une même voix. Et ce qui est beau dans ce chapitre, c'est que la conclusion de ce chapitre 14, qui lui-même est une application de tout ce qu'il avait déjà argumenté précédemment dans toute l'épître, eh bien, au fond, c'est ce que nous, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez Dieu. Alléluia. La louange collective, communautaire, est la conclusion d'une unité vécue en Jésus-Christ. Amen. Et je crois donc vraiment pas que pour avoir des moments, parce qu'il y a des expressions personnellement que je n'apprécie pas trop, puissance de la louange, louange explosive. Au parc d'attractions, il y a ça, oui. Vous pouvez aller à Euro Disney pour que ce soit explosif, mais pas dans une église. Je crois que ça dépend pas du type de réunion. La vraie louange, c'est celle d'une seule voix. C'est celle d'un peuple uni. Amen. Alors, il faut aller plus vite maintenant. 1 Corinthiens. Alors, 1 Corinthiens. Donc, on tourne les pages, on arrive à 1 Corinthiens. Alors, là, ce n'est pas une église très, très unie. Il y a des partis. Partis de Paul, partis de Céphas, etc. Il y a des procès. Des chrétiens qui s'attaquent en justice. C'est quand même incroyable. J'ai connu une église où ça avait lieu. Il y a régulièrement un tulle depuis tout à l'heure. Je ne sais pas c'est qui, si ça pouvait s'arrêter. Merci. Un petit bruit. Je ne crois pas que je suis le seul à l'entendre. Hein. Voilà. Voilà. Merci. Des opinions différentes sur la consommation des viandes sacrifiées aux idoles. Il y avait des Corinthiens qui disaient « Moi, je peux manger tout, le Seigneur m'a libéré, je peux même aller manger dans le temple des idoles. » Puis il y avait d'autres chrétiens dans la même église qui disaient « Mais c'est scandaleux, moi je sors de là. Et tu vas au même endroit où moi le Seigneur m'a délivré. » Et ça crée vraiment des difficultés. Quand les chrétiens ont vraiment des choses qui sont importantes dans leur conscience, ça crée parfois vraiment de grosses difficultés pour vivre ensemble. Après, il y avait des différences sociales qui se voyaient à la scène. Alors ça peut-être un jour on en parlera, mais la scène ne se pratiquait pas du tout comme on le fait nous. Souvent, elle se pratiquait au cours de repas. Et les Corinthiens, Paul dit, mais attendez, vous n'avez pas honte. Quand vous prenez la scène, il y a des pauvres qui ont faim, et il y a des riches qui sont déjà limite sous. La scène qui devrait être un repas qui montre l'unité et la fraternité revenait en fin de compte à être un repas qui démontrait les différences de catégorie sociale. Mais honte à vous! Eh oui, ça aussi, nos catégories sociales, notre porte-monnaie, cela peut diviser aussi dans l'Église. Et puis, il y avait aussi la remise en cause de la résurrection, c'est le chapitre 15. Il y avait des chrétiens qui étaient influencés par des mauvais enseignements qui niaient la résurrection. Il y avait aussi l'exercice charnel des dons, où des gens parlaient en langue à tue-tête pour se faire voir, pour se faire plaisir. Et là, vous y réfléchirez, je ne veux pas trop vous... Mais quand Paul dit « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église », il veut dire « Celui qui parle en langue, parfois, il peut se faire plaisir, mais celui qui prophétise, c'est pour le bien de l'Église. » Et il ne faut pas avoir une vie, même de l'esprit, égoïste. La vie de l'esprit doit être utile et pour l'Église. Hein, parfois, il y a des rassemblements où, au nom de l'esprit, on fait n'importe quoi. On chante comme le coq, on tombe à terre, on entre dans le repos de l'esprit. Bon, on pourrait... Les listes... Alors, maintenant, c'est plus la mode, le souffle prophétique, louange prophétique, il y a tout... Vous mettez tout ce qui est chrétien, et derrière, vous mettez prophétique. Et ça fait bien. Vous mettez ça sur un prospectus, et vous avez des gens qui viennent. Mais tout ça, c'est pas la vie de l'esprit. C'est la vie de la chair au nom de l'esprit. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Bon, cette église de Corinthe avait besoin de progresser dans l'unité. Bon, ça nous encourage un peu, parce que c'est vrai qu'il y a eu des églises premières qui étaient très unies, il y en a d'autres qui avaient plus de mal. Alors on se dit, après tout, si même eux avaient eu du mal, ben, Seigneur, tu nous aideras, nous aussi. Alléluia. Alors, chapitre 1er, verset 10 d'1 Corinthiens, vous voulez bien, je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Eh bien, Paul savait tout ce que je viens de vous dire. Il est allé écrire tout cela. Mais en introduction, il leur dit à être parfaitement unis. Donc, je nous rappelle simplement cette volonté de Dieu. Ce n'est pas que nous soyons un peu ou moyennement unis. Dieu veut pour l'assemblée évangélique d'Aubagne Allée de la Fourmi, je précise bien parce qu'il y a d'autres églises pour qu'on ne se trompe pas, que nous soyons parfaitement unis. Amen. La question ne c'est pas de se dire mais c'est impossible, comment on va faire? La question aujourd'hui c'est de se dire, moi qui veux toujours connaître la volonté de Dieu, ben là elle est claire, elle est dite. Ta volonté c'est ça Seigneur. Moi, j'en suis pas là, mais j'ai entendu ta volonté ce matin, par ta parole. Je le crois, j'obéis. Montre-moi le chemin. Fais-moi aller plus loin. Amen. Le Seigneur fera le reste. Mais nous, il nous faut quand même accepter la volonté de Dieu. Chapitre 10, verset 23. Chapitre 10, verset 23. Je ne peux prendre que des morceaux, sinon. À 1 Corinthiens 10, 23. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. C'est la question de la liberté. Ah oui, on est libre. Ah oui, on est libre. Mais ce n'est pas une raison pour être trop libre dans l'Église. Parce qu'on peut tout faire, mais est-ce que ça va faire du bien à l'Église. Voilà. Alors, chapitre 14, verset 1er, on se rappelle de cela. Chapitre 14, verset 1er. Recherchez l'amour. Aspirez aussi au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. Amen. Recherchez l'amour. C'est dans 1 Corinthiens qu'il y a le plus beau chapitre sur l'amour, peut-être. C'est le chapitre 13. C'est dans l'Église du Nouveau Testament qui était peut-être la plus divisée que Paul écrit le chapitre sur l'amour. Au camp famille, on a médité sur 1 Corinthiens 13. Et quand on médite 1 Corinthiens 13, on se dit, bon Seigneur, change mon amour et donne le tien. Parce que vous savez, derrière le mot amour, je vous assure, on se trompe beaucoup. L'amour n'est pas ce que nous pensons, ressentons ou connaissons depuis notre enfance naturelle. Dieu est amour. Celui qui aime est né de Dieu. Le véritable amour vient d'en haut. L'amour, le nôtre qui vient d'en bas, va nous faire préférer nos enfants contre les autres. L'amour qui vient d'en bas va nous rendre sentimentaux et parfois, au lieu d'être juste, parce qu'il le faut, on va écouter des choses qu'on ne doit pas écouter plutôt que de dire parfois aux gens « Non, là, je suis chrétien, ce que tu dis, je ne peux pas. » L'amour se réjouit de la vérité. Bon, etc., etc. Écoutez, ça fait plus de 30 ans que je suis converti. Il n'y a pas si longtemps que ça, je disais « Seigneur, c'est quoi l'amour ?» Tant ce qu'il a à nous proposer diffère de ce que nous avons. Eh oui, on continue. Galates chapitre 5, maintenant, on va dans les Galates. Alors les Galates aussi, il y avait un problème, c'est que des judaïsants étaient passés. Les judaïsants, c'était des gens souvent d'origine juive qui disaient aux églises, oui, c'est bien de croire en Jésus, croyez en Jésus, mais il faut en plus la loi et notamment la circoncision. Alors là, ça mettait les assemblées en danger. Galates, chapitre 5, verset 13. Galates 5, 13. Il dit, frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres. Amen. Alors, j'espère que vous connaissez peut-être le verset Allez, le verset 19, vous voulez bien ? Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, donc les péchés sexuels viennent en premier dans la liste, l'idolâtrie, la magie, et après, à partir de là, rivalité, querelle, jalousie, animosité, dispute, division, secte, tout ça, sept péchés sociaux, on va dire. Sept péchés visés dans notre vie avec les autres. Sept péchés qui nuisent à l'unité de l'Église, mais qui divisent. Donc dans l'Épître aux Galates, dans tous ces chapitres qui nous parlent de la chair et de l'esprit, l'accent est mis sur le fait que la vie dans l'esprit sera une vie où on pourra bien vivre ensemble. Et que la vie selon la chair va rendre impossible la vie communautaire. Puisqu'à la fin, c'est ce verset que nous avons lu aussi, hein, même il est dit dans ces passages-là que à force de se mordre les uns les autres, on va se dévorer les uns les autres. Je sais que souvent on parle de la vie de l'esprit, pour les dons de l'esprit, pour d'autres choses, mais je vous assure que dans l'Épître aux Galates, la vie de l'esprit se prouve par la capacité d'être unis et de vivre ensemble. Et ça, on l'a pas, je pense, on l'a pas assez entendu dans nos assemblées. Que la vie de l'esprit n'est pas avant tout personnelle et individuelle, mais elle se vit dans le corps. L'Église est un corps. Vous vous rappelez, le corps d'Adam était mort, il a fallu l'esprit pour lui donner la vie. L'Église, c'est le corps où il y a l'esprit de Dieu. Alléluia. Et l'esprit de Dieu nous fera vivre dans le corps. D'ailleurs, même Paul va jusqu'à dire que quand on est baptisé dans l'esprit, on est baptisé dans le corps. 1 Corinthiens 12, 13, si vous voulez vérifier. Quand on est baptisé dans l'esprit, on est baptisé dans le corps. Éphésiens, je passe, je ne veux pas être trop long. Philippiens, il y avait des passages dans Éphésiens, mais on va aller dans Philippiens, chapitre 2, verset 1er. Philippiens, chapitre 2, verset 1er. Philippiens 2, verset 1er. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayez un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Amen. Au chapitre 2, dans la suite, c'est ce passage magistral où il est dit que Christ, qui existait en forme de Dieu, a renoncé à ça. Il est descendu, il s'est fait simple homme, serviteur. Il est descendu tout en bas, et de tout en bas, Dieu l'a élevé tout en haut, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Mais ce que l'on ne retient pas souvent, c'est que ce chapitre qui nous parle de l'humiliation et de l'élévation de Christ est pour étayer ce que nous venons de lire, à savoir vivre ensemble par l'humilité. Et ce que Christ a fait n'est ici développé que pour nous montrer c'est quoi vivre dans l'humilité ensemble. Ben, c'est comme Christ. C'est descendre. C'est se dépouiller. C'est se vider. Littéralement, il s'est vidé de ses attributs divins. Il est toujours resté Dieu, mais il s'est vidé pour devenir un homme. Je pense qu'on a bien, on doit se vider de beaucoup de choses pour devenir un simple homme. Et c'est Dieu qui nous glorifiera quand son Fils reviendra. Amen. Mais nous, si nous voulons vivre ensemble, il faut descendre. Alors, il y a Thessaloniciens maintenant. Allez, 1 Thessaloniciens, chapitre... Bon, il y avait Colossiens. Colossiens 3, 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous des sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et s'il y a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés, pourquoi ? Pour être bien, pour être zen, pour être bien, non, pour former un seul corps. Règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Amen. Ça, c'est fort, hein ? L'œuvre de Christ pour former un seul corps. C'est l'illustration préférée de Paul quand il parle de l'Église. Il a parlé de temple, il a plusieurs images dans son enseignement, mais son image et son illustration préférée qui revient le plus souvent dans ses épîtres, c'est celle du corps humain. Et il dit que l'œuvre de Christ, c'est pour nous donner la paix afin de former un seul corps. Pas d'avoir moi la paix, mais d'être même, en fait, de devenir pacifique pour vivre avec l'Église et dans l'Église. J'entends de plus en plus de gens qui me disent « Je ne vais pas à l'Église, mais je vais très bien avec le Seigneur. Je vais peut-être vous heurter. » C'est faux. Parce que tout dans le Nouveau Testament nous montre que quand on est régénéré par le Saint-Esprit, c'est pour former l'Église. Et c'est un enseignement très profond. Et certainement, nous avons besoin de mieux le comprendre encore. Bon, j'aurai d'autres passages, mais ce serait trop long. Il y a même un passage dans Thessaloniciens qui met l'amour fraternel avant la sainteté. C'est 1 Thessaloniciens 3, 12 et 13, si vous voulez le vérifier, tandis que j'en parle succinctement. Nous avons mis fort en avant parfois, et il y a du bon dans tout cela, la nécessité d'obéir à Dieu, d'être saint. Bien sûr, aujourd'hui, on n'en parle plus dans les assemblées. Le livre d'Ésaïe, Israël disait « ne nous parle pas du saint d'Israël, on est dans cette période-là, on ne veut plus entendre parler de la sainteté de Dieu. » Et c'est grave. Mais il faut aussi faire attention qu'au nom de la sanctification, on en oublie l'amour fraternel. Tout le monde n'est pas très sanctifié. Je ne suis pas convaincu moi-même d'être vraiment très, très sanctifié. Mais quel que soit notre avancement, nous devons tous nous aimer les uns les autres. Amen. Si la sainteté nous fait devenir durs envers les autres, parce que l'autre n'a pas rempli le stéréotype que j'ai de la sainteté que doit avoir un chrétien, là, je ne crois pas qu'on a bien compris. Peut-être qu'un jour, on le lira. Dans le Lévitique, quand il est décrit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », après viennent des lois de sainteté. C'est très intéressant. 1 Pierre chapitre 4, verset 8. Allez, on fait une discrétion vers cet apôtre. 1 Pierre 4, 8. Je n'ai pas le temps de lire les autres passages pour Paul. 1 Pierre 4, 8. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Amen. J'ai ça sur le cœur ce matin, et une prière vraiment a été dans ce sens aussi. Vous savez, l'amour de Dieu, c'est pas de découvrir les fautes des autres. La Bible dit que l'amour cache ce que les gens font de mal. Je le paraphrase dans le langage actuel. Mais l'amour qui couvre une multitude de péchés, ça veut dire que l'amour cache ce que les autres font de mal. Tout simplement. Or, j'entends quelqu'un dire, « Mais non, on est des enfants de lumière. Faut tout dire. Faut tout savoir, faut tout montrer. » Oh là 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 là. Heureusement que le Dieu de lumière ne vous affiche pas sur le vidéoprojecteur ce que vous avez dit et fait cette semaine. Heureusement. Je crois que vous auriez du mal à revenir dimanche prochain. Dieu se tait beaucoup, vous savez. D'ailleurs, il y a un beau texte dans l'Ancien Testament qui dit « Je garderai le silence ». Alléluia. Non, l'amour et même la justice, ce n'est pas d'essayer d'aller dénicher des choses sous la couverture. Vous savez ce que c'est que rédemption ? C'est couvrir, c'est recouvrir. C'est un mot qui veut dire cela. La rédemption, c'est couvrir, c'est mettre la couverture, c'est cacher. Amen. Je crois que si nous ne cachons pas nos fautes à Dieu, alors Dieu tout de suite, lui, les cache. Alléluia. Dieu ne découvrira que les péchés de ceux qui ont voulu les cacher. Mais si nous vivons dans la lumière, alors il est écrit, le sang de Jésus nous purifiera de tout péché. Alléluia. Non. Pourquoi dire à une tierce personne ce qu'un tel a fait ? C'est pas l'amour ni la justice. Surtout qu'on a souvent bien tort de ne pas écouter le proverbe qui dit « Une partie arrive et on lui donne raison, mais l'autre partie donne sa version et là, on examine. » Parce que quand on n'entend qu'une seule partie, bah forcément, cette personne va toujours nous donner le sentiment qu'elle est dans son droit. Mais Dieu sait tout. Pas nous. Et je pense qu'il vaut mieux même pas essayer d'en savoir plus. L'amour. Alors vous voyez que l'amour, c'est pas toujours agréable parce que la chair, vous savez, le livre des Proverbes dit que les paroles du rapporteur sont comme des friandises. J'aime peut-être beaucoup les bonbons du frère même qu'il partage. Les bonbons, hein, les friandises. Ça vous est jamais arrivé ça ? On dit du mal, puis vous aimez bien. Vous vous régalez. C'est parce qu'on est vraiment mauvais et méchant. C'est tout. Ah, et puis après, en plus, on peut dire, mais moi, j'ai rien dit. Hein. Ah oui, oui, d'accord. D'accord. Mais je pense quand même que quand on aurait une oreille qui écoute la vocifération des déchets, l'oreille est un peu poubelle. N'ayons pas d'oreille poubelle, mais d'oreille circoncise, d'oreille purifiée. Alléluia. Voilà. L'amour couvre une multitude de fautes. Alors, quelqu'un pourrait dire, bon, que l'amour couvre de temps en temps, allez, ça j'accepte. Mais une multitude. Ben vous savez, je vais peut-être vous décevoir, mais franchement, on commet encore une multitude de fautes. Si Dieu, dans sa lumière, nous montrait tous nos péchés, on se dirait, c'est pas possible. Ben c'est pas possible que j'en sois là. Ça fait 20 ans que je suis chrétien. Je sais pas vous, mais moi quand j'étais au début chrétien et que je voyais des chrétiens qui avaient 20 ans, 30 ans, je me disais, ah oh, ça doit être bien. Quand on a 20 ans ou 30 ans de conversion, on pêche presque plus, à mon avis. Mais le problème, c'est que plus on avance, plus on se rend compte de ce qu'il y a de mauvais. Donc, et c'est là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Alléluia. Hein, c'est ce verset qui dit là où le péché a abondé, c'est pas pour parler des gens qui font beaucoup de péchés, c'est plutôt pour parler des gens qui, avec la loi, se rendent compte de plus en plus de leurs péchés. Donc là où on se rend de plus en plus compte de nos péchés, la grâce surabonde. Alléluia. Je termine avec deux passages. Un peu de patience. Jean chapitre 17, verset 20. Jean 17, verset 20. Jean 17, verset 20 à 23. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tout soit un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un, deuxième fois, en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, troisième fois, comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, quatrième fois, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Amen. C'est ce qu'on appelle la prière sacerdotale. C'est avant de donner sa vie sur la croix comme souverain sacrificateur pour y offrir son sang afin d'obtenir une rédemption éternelle, il prie pour le peuple. Ça faisait partie du rôle du souverain sacrificateur, de prier pour le peuple. Avant de donner sa vie, il prie pour le peuple. Et qu'est-ce qu'il demande notamment? Et qui revient à plusieurs reprises? Que tous soient un. Vous voyez que l'enseignement de l'unité de l'Église est quand même beaucoup plus présent et important qu'on ne le pense dans le Nouveau Testament. Et même dans la conception que le Seigneur lui-même avait de son Église. Alors l'unité, c'est le vœu et la prière du Seigneur. Alors je me dis, si le Seigneur veut et prie pour que l'Église soit unie, je n'ai pas le droit d'aller à contresens de sa prière. Deuxièmement, Dieu est uni dans la différence de ses personnes. Jésus dit au Père, nous sommes un. Je répète, Dieu est uni dans la différence de ses personnes. Nous croyons en un seul Dieu révélé sous les traits du Père, du Fils et de l'Esprit. Le Père est différent du Fils, le Fils est différent de l'Esprit. Les trois sont distincts et différents, mais pourtant ils ne sont que un. Je dis, Dieu est uni dans la différence de ses personnes. Comme quoi l'unité n'est pas d'être dans la ressemblance identique. Mais Dieu nous montre l'exemple d'une unité dans la différence, en sa personne même. Ça fait réfléchir. Et troisièmement et dernièrement, le un avec lui passe par le un entre nous. Un peu compliqué ce que j'ai mis. Jésus prie pour que nous soyons un et qu'en étant un, on soit un avec Dieu. Donc le un avec lui passe d'abord par le un entre nous. Comprenez? Ça veut dire qu'on ne peut pas dire « je suis en communion avec Dieu » sans être en communion avec les frères et sœurs. Parce que c'est la communion mutuelle qui permet l'unité et qui favorise l'unité avec Dieu. Amen. Donc c'est vraiment très important. Dernier verset, Jean 13, verset 34. Jean 13, verset 34, je termine avec cela. Jean 13, 34. Jean 13, 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Vous me direz, c'est pas nouveau. C'est ce qui est après qui est nouveau. Comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Vous savez, on est souvent étonné. Les gens nous disent, moi quand je suis venu dans l'église, je ne me rappelle plus de la prédication. Je ne me rappelle plus des chants. Mais ce qui m'a touché, c'est l'amour qu'il y avait dans l'église. J'ai souvent entendu ça. Même à mon tout jeune prédicateur, je me disais, ben ça ne sert à rien que je prêche alors. Et j'ai mis du temps à comprendre qu'en fait, c'est biblique. C'est biblique. La meilleure méthode d'évangélisation, mais ce n'est pas une méthode, mais la meilleure méthode d'évangélisation, c'est de nous aimer les uns les autres. Parce que si nous nous aimons les uns les autres, les âmes vont être gagnées. Ils vont voir, ça c'est des chrétiens. Là, c'est la vérité. Mais on peut distribuer des millions d'évangiles, de prospectus, faire des manifestations grandioses d'évangélisation, appeler, pas Monsieur Billy Graham, malheureusement il est auprès du Seigneur maintenant, mais un grand évangéliste mondial, et faire tous les efforts que l'on veut. si nous ne nous aimons pas les autres, si nous ne sommes pas une assemblée unie, ben le Seigneur, je ne pense pas qu'il va nous confier des âmes. Parce que quand les gens viennent dans notre église, s'ils sentent qu'il y a une tension, s'ils entendent des paroles, voient des conversations, et quand même, vous croyez que c'est bon pour eux? C'est ni bon pour nous, ni bon pour eux. Je pense qu'à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Alléluia. Et je crois que c'est le chemin par lequel nous devons passer. Alors au fond, on comprend de mieux en mieux pourquoi l'unité est tellement mise en relief dans l'enseignement de Paul, dans la prière du Seigneur. C'est que, en fait, derrière cette unité, ce vivre ensemble, ça touche à plein de choses. Notre maturité spirituelle, notre vie selon l'esprit ou selon la chair, nos problèmes aussi psychologiques. Hein. Des fois, on est des frustrés. On essaye de se rivaliser les uns avec les autres parce qu'on n'est pas guéri de certaines choses. En fait, notre vivre ensemble touche à plein de doctrines et aussi de réalités personnelles. Donc, ça nous fait réfléchir. Amen. Il y a toujours avec le Seigneur de quoi progresser. Et ça, c'est merveilleux. Amen. Ma mère m'avait dit, David, c'est comme tout. Dans 3 mois... on n'en parlera plus. Je suis encore dans l'assemblée. Alléluia. Pourquoi ? Parce que tout ce que je faisais avant, j'en avais vite assez, parce que j'avais fait le tour. Mais avec le Seigneur, il y a toujours à progresser et à découvrir. Alléluia. Que Dieu soit béni.